Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Gérard, Franck, Gaël, Gauthier, Alexandra et Bertrand, c'est un cœur d'auditeur qui a demandé le sujet d'aujourd'hui à Franck Ferrand, la conquête de l'Angleterre par les Normands de Guillaume. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Ils ont raison tous ces auditeurs. C'est en effet un sujet passionnant et ce n'est pas mon invité d'aujourd'hui qui va nous dire le contraire puisque Michel de Decker est normand jusqu'au bout des ongles.
Et puis tout à l'heure, un peu avant 15h, vous répondrez à la question d'Emeline via la page Facebook de l'émission. De quand date et d'où viennent les préjugés contre les gauchers?
Ben nous voilà bien. Il vous reste une heure les amis pour me trouver des éléments de réponse à une telle question. Pour le moment, nous allons retrouver Guillaume sur les grèves houleuses de Normandie.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Normands du temps de Guillaume sont les enfants de deux peuples bien différents. Ce sont à la fois des Vikings et des Francs. Leur violence guerrière, que je n'ose qualifier de scandinave, s'est polie au contact de ces Français tout imprégnés encore de l'héritage romain. Guillaume lui-même est le fruit de cette double appartenance et vous allez voir qu'il s'est fait au contact lui aussi de toute cette culture latine. Ça crée, vous savez, les Vikings et les Latins, ça crée quelque chose, ça crée un mélange assez imbattable d'une certaine manière. Alors on ne peut pas saisir la personnalité du futur conquérant si on n'insiste pas sur ses origines. Guillaume, à cette époque, est ce qu'on appelle un bâtard, c'est-à-dire que son père est noble, c'est même le duc de Normandie en personne, Robert Ier, dit le libéral, mais sa mère, Erleva, est une simple fille de bourgeois, son père était tanneur à Falaise. Robert a tout juste 18 ans quand il est tombé sous le charme de cette jolie fille, il lui a donc fait un enfant, Guillaume, mais il n'a pas osé l'épouser à l'époque. Or, à peine 6 ans plus tard, Robert annonce son départ pour la Terre Sainte. On est en 1034, c'est le millénaire de la mort du Christ, donc il y a toute cette espèce de grand mouvement. Et avant de partir, il fait jurer à tous ses barons, pour le cas où il ne reviendrait pas, d'accepter Guillaume comme seigneur. Or, on apprend dès l'année suivante la mort de Robert. Et voilà comment, à l'âge de 7 ans, Guillaume devient duc de Normandie, enfin en théorie. Parce que dans la pratique, nombreux sont ceux qui profitent de sa jeunesse pour essayer de récupérer le pouvoir. Évidemment, le duché va sombrer dans l'anarchie et l'enfant duc est à ce moment-là en grand danger. C'est la famille de sa mère, les fameux bourgeois de Falaise, vous savez, qui va venir protéger Guillaume en le cachant dans un endroit secret pendant 4 ans. Or, il a quand même 7, 8, 9, 10 ans à l'époque, le petit Guillaume. C'est-à-dire l'âge de souffrir de la situation. Et justement, c'est dans cette humiliation qu'il va sans doute puiser son incroyable force de caractère. Ça fait un petit peu penser, si vous voulez, à la jeunesse de Louis XIV pendant la Fronde, hein, qui va comme ça s'aguerrir au contact des événements. Pendant ces années noires, deux factions s'opposent donc en Normandie. Plutôt en Basse-Normandie, autour de Caen, la faction scandinave, païenne, si vous voulez, qui voudrait ressusciter les Vikings. Et puis plutôt en Haute-Normandie, autour de Rouen, la faction plus française et chrétienne qui s'appuie sur les bourgeois des villes et sur l'héritage latin. Eh bien, c'est cette dernière faction, franque, que Guillaume le Bâtard va prendre comme modèle et sur laquelle il va littéralement s'appuyer pour reconquérir son duché. Cette question de bâtardise, disons-le, va le hanter. Et au moment de se marier, par compensation, il choisit, lui, une jeune fille de très haut, de très pur lignage, la fille du comte Baudouin de Flandre, Mathilde, qui est en même temps la nièce du roi Henri Ier de France. Vous voyez, alors là, on peut pas faire mieux. Son père étant d'accord, tout irait pour le mieux. Si le pape Léon IX, pour des raisons d'équilibre politique dans la chrétienté, ne s'opposait à cette union. Et finalement, et Baudouin et Guillaume vont maintenir leur décision et ils sont tous deux excommuniés. Donc le pape ne plaisante pas. La réconciliation de Guillaume avec le Saint-Siège, elle n'interviendra que plus tard, grâce à un théologien qui s'appelle Lanfranc. Enfin, on ne va pas entrer dans ces considérations. Or, ce soutien du pape se révèle déterminant pour légitimer les aspirations de conquête de Guillaume. Ça, c'est l'héritage de la double culture dont je vous parlais. Hein. On envahit, on pille, on conquiert d'un côté, mais d'un autre côté, on légitime, on justifie, on légalise, comme les grands modèles romains. dans les années 1060, Guillaume à ce moment-là un petit peu plus de la trentaine, le roi d'Angleterre est un prince très faible mais très pieux. On l'a surnommé du reste Édouard le Confesseur. Cet Édouard, qui a fait vœu de chasteté, n'a donc pas d'enfant, a pour manie de promettre sa couronne à tous les princes qu'il croise quasiment. Et bien sûr, Guillaume de Normandie en fait partie. Et comme c'est une promesse qui l'arrange, eh bien il la prend très au sérieux, bien entendu. Vous savez, c'est comme ces très vieilles dames à héritage qui promettent l'héritage à tout le monde et tout le monde veut les croire, bien entendu. Sauf qu'en réalité, dans l'ombre du roi Édouard, le véritable tenant du pouvoir en Angleterre est un certain Harold de Wessex, qui lui se méfie beaucoup des Normands. Or, il se trouve qu'un jour de 1064, ça c'est le hasard complètement incroyable, le Harold était en train de naviguer au large de l'Angleterre, son navire est complètement détourné et il va échouer en terre normande. Ou boulonnaise, nous dit-on, on verra tout à l'heure avec Michel de Decker ce qu'il faut en penser. Toujours est-il qu'il est arrêté, récupéré, présenté au duc de Normandie qui feint de le recevoir mais qui surtout en profite pour lui faire prêter serment. Le jour où Édouard mourra, c'est à lui, Guillaume, que reviendra la couronne. Et Harold, qui n'a qu'une envie, c'est de rentrer tranquillement chez lui, il promet tout ce qu'on veut, il jure même sur un coffre, sans savoir que dans le coffre on a caché des reliques, de saintes reliques, et qu'en vertu des lois féodales, son serment est censé l'engager jusqu'à la mort. Ce qui fait que, lorsqu'Édouard meurt, quelques mois plus tard, Harold commet un parjure terrible en gardant la couronne d'Angleterre pour lui. Là, vous pouvez faire confiance à Guillaume, bâtard ou pas, pour aller la récupérer. Outre-Manche, Harold guette une attaque imminente des Danois dans le nord du royaume. Vous voyez que c'est pas simple pour lui comme situation. Sur le continent, le beau-père de Guillaume, Baudouin de Flandre, est le régent de France à cette époque. Quant au pape, avec lequel donc il s'est réconcilié, il attend une réforme au profit de l'Église d'Angleterre, réforme à laquelle Guillaume s'est engagé. C'est-à-dire que Guillaume de Normandie a le double soutien de la couronne de France et de la papauté. Le voilà à la veille d'entreprendre la plus audacieuse de toutes les campagnes. C'est vrai que Guillaume a déjà eu l'occasion d'aller conquérir la province du Maine, par exemple. Enfin, vous avouerez que la Grande-Bretagne, c'est quand même autre chose. Une fois encore, Guillaume se prépare, bien entendu. Il a fait reconnaître son bon droit par les barons de Normandie. Il en profite pour confier officiellement le duché en son absence aux soins attentifs de la duchesse Mathilde. Reste maintenant à mettre sur pied sur les côtes normandes une traversée de la Manche qui paraît complètement impensable. Vous imaginez, il faut les fabriquer, les bateaux, il faut que tout ça soit prêt. Raison de plus pour se lancer, on va dire, à corps perdu dans les préparatifs. Il s'agit avant tout de faire traverser la mer à toute une flotte emportant hommes, chevaux, bœufs, attelages, matériel de tous ordres. Le point choisi pour l'embarquement, c'est l'estuaire de la Dive, on est pas loin de Cabourg. D'énormes quantités de bois ont été acheminées à cet endroit. Les charpentiers travaillent jour et nuit et tous ces artisans, on voit ça très bien sur la tapisserie de Bayeux, vont construire ce qui va être la flotte d'un invasion de l'Angleterre.
Des Chevaliers du ballet Roméo et Juliette, écrit par Serge Prokofiev, selon l'œuvre de William Shakespeare. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Guillaume le Conquérant et à la bataille d'Hastings.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à Guillaume de Normandie et à la bataille d'Hastings.
Le 12 septembre 1066, tout est prêt, les vents sont dans la bonne direction. On s'embarque donc, pas tout à fait tout de suite pour l'Angleterre, mais pour l'Anse de Saint-Valery-sur-Somme, d'où la traversée sera beaucoup plus courte. Il y a déjà d'ailleurs des difficultés. Pendant cette première expédition, il y a des bateaux qui versent avec les cargaisons, les hommes, les chevaux, etc. Combien sont-ils autour de Guillaume ? Probablement pas plus de 7000 hommes, en comptant les services. Ça n'a pas l'air vraiment, c'est pas très nombreux quand même pour aller prendre possession de toute l'Angleterre. Mais c'est vrai que c'est déjà beaucoup lorsqu'il s'agit de leur faire traverser la Manche tous ensemble. Or, le problème, une fois parvenu à Saint-Valery, c'est que les vents sont plein nord, au lieu des vents de sud nécessaires pour gagner les côtes anglaises. On raconte que pendant 15 longues journées, Guillaume va vivre les yeux littéralement rivés à la girouette de l'église du village en tressaillant au moindre mouvement d'air. Et puis ça y est, les vents veulent bien tourner au sud. Et Guillaume, qui essaie de cacher son émotion, va pouvoir embarquer à bord de la Mora, le bateau que lui a offert Mathilde sur ses deniers et dont la figure de proue désigne du doigt le royaume à conquérir. Les opérations d'embarquement s'effectueront dans une précipitation qu'on imagine, de peur que le vent ne change à nouveau. Allez vite, vite, il faut partir. On a quitté la Normandie dans la soirée, la nuit ne tarde pas à tomber. Pour éviter les collisions, un fanal a été placé sur la mâture de chaque petit navire. Le plus visible, évidemment, c'est celui qui se trouve à la vergue de la Mora. Lorsque se lève enfin la journée du 29 septembre, l'embarcation de Guillaume, sans doute la plus rapide, se retrouve seule au milieu des flots, à travers la brume, vous savez, c'est la petite brume matinale. Là. On ne distingue encore pas bien les côtes, mais le Normand se doute bien que l'Anglais doit l'attendre avec ses hommes de l'autre côté. Il faut absolument arriver tous ensemble. On va donc attendre les retardataires et pour occuper l'esprit de ses compagnons, le duc, dit-on, fait servir à bord un véritable banquet bien arrosé. Enfin, la mer se couvre peu à peu de dizaines de voilures. Ça y est, la flotte se reconstitue. En face, la Clôte s'est dessinée et l'armada des Normands rejoint sans peine, à marée basse, la plage de Pevensey. C'est la même plage qu'avait utilisée Jules César, 1000 ans plus tôt, lorsqu'il avait déjà débarqué en Angleterre. Surprise, stupéfaction même. Il n'y a pas l'ombre d'un Anglais. Le débarquement est une vraie partie de plaisir et Guillaume s'interroge. Il dit « Mais alors, on nous a pas attendu. Les espions de Harold auraient-ils failli ?» Une enquête menée sur place va lui livrer la réponse. En fait, ce même vent de nord qui avait retardé sa traversée à lui avait favorisé celle des Danois. Rappelez-vous qu'on attendait les Danois au nord. Harold a donc dû se porter vers le nord à marche forcée et grâce à l'appui de ses barons du nord, il vient de battre les Vikings à Stamford Bridge. Les Normands ont alors tout le temps de s'installer. Ils soufflent comme toujours le chaud et le froid. Tantôt, ils mènent de subtiles missions pour suivre la progression de Harold et de son armée. Et tantôt, les voilà qui incendient les maisons, qui brûlent tout sur leur passage. Ce n'est qu'au premier jour d'octobre qu'Harold aura connaissance du débarquement des Normands sur ses côtes. Aussitôt, il décide évidemment de rentrer à Londres, toujours à marche forcée. Et là, devant la défection de ses barons du Nord, le nouveau roi, celui que les Normands traitent d'usurpateur, va devoir se contenter pour aller combattre Guillaume et les siens d'une armée qui elle aussi est très réduite, 7 à 8 000 hommes, ce qui veut dire que le sort de l'Angleterre, et on pourrait presque dire d'une certaine manière le destin de l'histoire européenne, va être entre les mains d'une poignée de combattants, 7 000 hommes de part et d'autre. Les Normands du duc Guillaume, fraîchement débarqués, sont sur le point d'affronter l'armée du roi Harold, qui donc est redescendu de Londres. La confrontation, évidemment, ça va être la célèbre bataille qui est restée dans les mémoires, celle qu'on apprend en cours d'anglais, vous savez, la célèbre bataille d'Hastings, qui a lieu le 14 octobre 1066. On a célébré l'anniversaire hier, si je ne m'abuse. Le 13 dans la soirée, les deux armées sont en vue l'une de l'autre. Harold a fait stopper la sienne au sommet d'une colline, ce qui est censé lui offrir la position avantageuse. Et encore, l'endroit est assez étroit, moins de 500 mètres, ce qui a pour inconvénient d'obliger les hommes à se serrer. Et les meilleures troupes anglaises, les fameux housecarls, qui combattent à la hache, vont être gênées dans leurs mouvements tournoyants. Il leur faut plus de place d'habitude. De son côté, Guillaume accepte sans se plaindre de prendre position dans la plaine. Le 14 au matin, il assiste à la messe. Il prend soin de porter à son cou certaines des petites reliques sur lesquelles Harold avait prêté serment, vous rappelez. Il fait le vœu d'édifier sur place une abbaye en cas de victoire. Puis il harangue ses guerriers. Il faut imaginer la voix chaude, puissante de Guillaume qui leur rappelle qu'ils sont dos à la mer, qu'ils n'ont par conséquent aucun espoir de fuite, mais qu'en revanche, S'ils combattent avec ardeur, la récompense de leur courage sera non seulement un des plus hauts faits d'armes de tous les temps, mais aussi à portée de la main toutes les richesses, toutes les terres grasses, tous les honneurs et les bonheurs de l'Angleterre. Le combat s'engage, oh, c'est un combat très âpre. Les Normands hurlent, montent à l'assaut du promontoire d'Hastings. Oh, visiblement, ils ne sont pas encore tout à fait en haut. On a le temps de les laisser s'étriper encore quelques instants.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, nous reviendrons à la bataille d'Hastings avec vous, Franck Ferrand.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revivons avec vous, Franck Ferrand, la bataille d'Hastings.
Alors il y a sur le champ de bataille d'Hastings une rumeur qui se répand et qui notamment va évidemment beaucoup troubler les combattants normands, c'est que le duc aurait été tué. Il aurait été tué d'une flèche, vous imaginez un peu la panique. Et pour les détromper, Guillaume va devoir arracher son nasal, hein, le casque qui lui cache la moitié du visage, et se montrer en criant « Je suis vivant, regardez-moi, je suis vivant et je serai vainqueur !» Le courage à ce moment-là renaît peu à peu, on se croirait un peu chez Corneille, ça tombe bien, c'est un Rouennais. Mais en haut de leur colline, les Anglais, bien soudés, continuent à se défendre, et c'est alors que le duc a l'idée de feindre la retraite. Il voit les Normands qui détalent devant eux les Anglais. Et donc ils se disent, c'est bon, ils n'ont plus qu'à redescendre la pente. Ils se mettent à charger à leur tour. Ils se dispersent d'une certaine manière en direction de la plaine. C'est exactement ce qu'attendait Guillaume. À ce moment-là, ses guerriers à lui vont faire volte-face et ils vont pouvoir beaucoup plus facilement atteindre l'ennemi à deux reprises. La même tactique entraîne le même succès, un succès parachevé par la cavalerie normande qui, prenant maintenant les Anglais à revers, va leur infliger de terribles pertes. Cela dit, le gros de l'armée anglaise, qu'on appelle le Field, composé de paysans réquisitionnés, tout ce monde-là se défend très bien. Ces gens-là descendent des Saxons, ils savent se battre. Il n'empêche, la bataille tourne définitivement à l'avantage de Guillaume. D'ailleurs, Harold vient de recevoir une flèche, et ça n'est pas une rumeur. Il gît dans le sang des siens sur le champ de bataille. Je dis ça n'est pas une rumeur, certains mettent cette hypothèse, enfin cette thèse, cette version en doute. On va en parler dans un instant. La tradition veut qu'on ait fait appel à l'ancienne maîtresse de Harold, Edith au col de Cygne, pour identifier formellement le corps que Guillaume fit enterrer sur le rivage. Comme ça, aurait-il dit, il gardera la côte après sa mort comme il l'avait gardée de son vivant. Et l'abbaye vit le jour sur les hauteurs d'Hastings, Battle Abbey, qui sera consacrée près de 30 ans plus tard, en 1094. Maintenant, le rival de Guillaume a disparu. Son royaume, en quelque sorte, est entre ses mains. En tout cas, sur le papier, dans l'idée. Parce que maintenant, avec l'aide de quelques centaines de chevaliers seulement, il va falloir prendre possession de l'Angleterre, se partager les fiefs, se faire accepter des populations. Une fois encore, la double culture des Normands va faire merveille. D'un côté, ils n'hésitent pas à s'imposer par la terreur, en pillant, en incendiant, comme le faisaient les Vikings. Et d'un autre côté, ce sont les administrateurs avisés qui ont été à l'école de la France et à travers elle de Rome, bien entendu. Ce qui va permettre d'ailleurs de doter l'Angleterre de structures de gouvernement assez modernes. Alors, il y a certains prétendants élus par les barons fidèles à Harold qui va s'opposer à Guillaume, sauf que n'oubliez pas que Guillaume a le pape dans sa manche et que le prétendant en question ne trouve personne pour le couronner. Tout simplement, il n'y a aucun prêtre qui accepte de lui obéir. Guillaume va devenir inam. Pas tellement le choix, je suis pas certain que ça aurait été sa décision personnelle, mais il n'a pas tellement le choix, il va devenir le roi d'Angleterre. Il trouve sans doute que c'est un petit peu tôt pour se faire couronner, mais puisque tout le monde paraît y tenir, alors autant que la cérémonie soit à la hauteur de l'exploit militaire et politique qu'il vient d'accomplir. Le couronnement de Guillaume a lieu à Westminster, le jour de Noël 1066. Le sacre est placé sous les auspices du pape, dont la bannière continue de suivre Guillaume pas à pas. C'est l'archevêque d'York qui officie. Et au moment de couronner le nouveau roi, il demande rituellement à l'assistance en français et en anglais si elle accepte pour roi le duc de Normandie. La foule acclame alors Guillaume. Oui, mais dehors, les soldats à cheval postés près de la basilique prennent peur. Ils s'imaginent qu'on est en train de tuer leur chef avec ces clameurs. Et ils se mettent, suivant leur bonne habitude, à incendier toutes les maisons des environs. Vous voyez un peu la fête du sacre. Dans l'église même, la foule horrifiée s'enfuit. Le couronnement se termine dans un désordre apocalyptique. Et Guillaume, qui néanmoins pendant tout le déroulement de ces événements va savoir rester absolument stoïque, Guillaume, dit-on, tremble de tout son corps au moment où l'on est en train de poser sur son chef la célèbre couronne d'Angleterre. Bonjour Michel de Decker, vous êtes l'auteur des grandes heures de la Normandie et alors celle-ci fait bien sûr partie des plus grandes heures de la Normandie.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Hastings est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Michel de Decker, écrivain historien, auteur des Grandes Heures de la Normandie aux éditions Pygmalion.
C'est très amusant à deux jours d'écart de faire cet exercice puisque à 6h25 hier, je parlais de la bataille d'Hastings chez Thomas Soto, mais j'avais deux minutes pour le faire. Et là, aujourd'hui, nous avons une heure entière, Michel de Decker. Quelle chance, hein.
1048 ans après.
Voilà, en plus, c'est formidable. Alors, il y a... Je pense que nos auditeurs, les plus fidèles en tout cas, le savent parce que j'ai eu l'occasion de le dire assez souvent, mais une des choses les plus émouvantes, les plus magnifiques qu'on puisse voir en France se trouve à Bayeux. Et c'est la célèbre broderie dite de la reine Mathilde. En fait, elle n'est pas de la reine Mathilde du tout, mais c'est une sorte d'étoffe magnifique qui fait presque 70 mètres de long et qui, un peu à la manière d'une bande dessinée, raconte...
C'est la première bande dessinée de l'histoire, absolument. Oui, on l'attribue, la légende l'attribue à Mathilde, mais c'est probablement, elle a été brodée à la demande d'Odon de Bayeux. Odon de Bayeux qui est le demi-frère de Guillaume, puisque on sait que la belle Arlette, la petite lavandière de Falaise, qui était belle comme tout, bien plus belle que la mère Denis, on l'imagine. Eh bien, la petite Arlette, après, s'est remariée quand Robert, Bob Zotdeville, Robert le Diable ou Robert le Magnifique est mort, quasiment sur la tombe, en revenant de la tombe du Christ. Elle s'est remariée et elle a eu d'autres héritiers, qui sont donc les demi-frères ou la demi-sœur de Guillaume. Et c'est Odon de Bayeux qui, probablement, a commandé cette broderie.
Qui était probablement destinée à orner un chœur de cathédrale, d'ailleurs, hein, puisqu'elle en a la taille et l'usage.
Oui, pendant un moment, elle a orné la cathédrale de Bayeux. Elle a quand même connu des aventures des mésaventures tout à fait terribles, puisque les guerres de religion ont failli lui être fatales. La Révolution, elle a décoré le char de la déesse Raison, mais plutôt comme une bâche d'ailleurs, pour la protéger de la pluie que pour autre chose. Et ensuite, pendant la guerre, Göring a voulu s'en emparer, et Dieu merci, elle était dans les caves du Louvre, et von Scholtitz, au moment d'incendier Paris, ou de ne pas incendier Paris, a dit: écoutez, allez au Louvre si vous voulez, mais ça n'est plus aux mains des Allemands, donc débrouillez-vous. Donc personne n'a osé aller la chercher, et elle était sauvée pour la France et pour la Normandie.
Oui, c'est vraiment une merveille. Toutes les broderies sont intactes.
Oui, puis c'est la vie quotidienne.
C'est très très précis, c'est très détaillé. Il y a un petit côté naïf. Lorsqu'il y a des batailles, on voit les têtes des petits bonshommes qui roulent par terre, évidemment. Et puis alors, on les voit s'activer, préparer les navires.
Manger.
Ça a été une opération considérable.
C'est absolument... Vous savez, je crois que Guillaume, dès le mois de janvier, convoque ses barons à Lillebonne et leur dit: voilà, j'envisage d'envahir la grande île. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, évidemment, comme c'est un personnage comme il n'y en a qu'un par siècle, parce qu'il a une personnalité et un charisme fantastique. C'est un athlète aussi. Hein,
oui,
c'est
grand. Comment est-ce qu'on peut savoir ça?
Alors, imaginez-vous qu'en 1983, quand on a restauré l'abbaye aux hommes de Caen, c'est l'abbaye dans laquelle il a été inhumé, qu'il avait fait construire pour obtenir le pardon du pape, d'ailleurs, pour son mariage, et l'abbaye aux dames pour la reine Mathilde, eh bien, on a retrouvé sa sépulture. Et dans le fond de cette sépulture, on a retrouvé un fémur. Et d'après ce fémur, on sait qu'il mesurait 1,85 m. Donc, c'est une belle plante pour l'époque.
Ouais, voilà, il devait impressionner les gens, bien sûr. Hein.
Et puis, il avait beaucoup d'à-propos aussi, quand on sait qu'il débarque à Pevensey, et que, bon, il débarque en dernier, il attend que tous ses hommes soient sur la grève, et il débarque à la façon des Vikings, c'est-à-dire pas dans les ports, mais sur une grève loin de l'animation, plus discrètement. Et quand il débarque du Morra, eh bien, est-ce que c'est l'émotion?
C'est le nom du navire amiral. Hein.
Oui, est-ce que c'est l'émotion, la maladresse, mais il se prend les pieds dans son épée, et patatraf, il s'allonge dans la vase. Alors, les Normands, évidemment, qui sont un peu superstitieux et bigots, ils disent, ouh, c'est une mauvaise augure, un Romain rentrerait chez lui. Mais pas du tout, parce qu'il a de l'à-propos, il se relève en saisissant deux pleines poignées de vase ou de terre anglaise en disant, eh bien, vous voyez cette terre, je la tiens, je la saisis à pleine main, elle est à vous, je vous la distribuerai.
Bravo. Là,
Et au moment de partir à l'attaque, après la messe, quand il endosse sa broigne, c'est-à-dire sa lourde veste de cuir cernée de cercles métalliques pour se protéger des coups, eh bien il l'enveloppe à l'envers. C'est pareil, les Normands disent mais ça porte malheur. Et alors c'est à ce moment-là qu'il dit, voyez-vous, je vais changer de duc, je vais devenir roi.
Alors Marie, qui habite tout près d'Hastings, nous dit via Facebook que on dit, là-bas, sur place, que la bataille ne s'est pas déroulée à Hastings, ni même à Battle, du reste. Et je croisais ce matin Thierry Geffrotin dans les couloirs d'Europe 1. Et Thierry me dit, écoutez, moi j'y suis allé à Hastings, j'ai visité tout ça. Et c'est très très petit, on a eu du mal à imaginer qu'une si grande bataille ait pu se dérouler sur un aussi petit endroit. Il me dit, c'est même pas grand comme un terrain de football. C'est impressionnant quand même.
Oui, mais il n'empêche que c'est quand même l'épicentre de la bataille, c'est Hastings, même s'ils se sont éloignés un peu vers Sans Lac, etc., etc. Après, dans le courant de la bataille, le coup d'envoi sur le terrain de football, c'est vraiment Hastings, bien sûr.
Oui, et c'est très peu d'hommes, finalement, on peut le dire. Qui sont...
Écoutez, on peut difficilement
en tout 15 000
les chiffrer,
guerriers,
mais...
semble-t-il.
Oui, c'est ça. Au
c'est vraiment très
14 000,
peu.
7 et 7,
oui,
c'est ça. Oui.
Donc, on peut dire que le sort de l'Angleterre, le sort d'une certaine manière de notre civilisation occidentale, parce qu'on va venir dans un instant, Michel de Decker, à toutes les conséquences de cette victoire de Guillaume sur les troupes de Harold, bien entendu, mais on peut dire que le sort de l'Angleterre a été tenu dans la main de quelques centaines d'hommes, en fait, hein, c'est ça.
Octobre 1066, ouais. Absolument, le sort de l'Angleterre, de la France, de la Normandie, de l'Europe aussi, en grande partie, bien sûr.
La stratégie de Guillaume, est-ce que c'est simplement de la malice, c'est parce qu'il est très... Ou est-ce que c'est un génie, d'après vous, des batailles?
Je crois que c'est un stratège. Il a commencé très jeune. Vous savez, quand il avait 9 ou 10 ans, qu'il était camouflé au château de Valognes, on est venu pour essayer de l'assassiner. Donc il s'est enfui, il s'est réfugié à Falaise. Il a levé une petite armée. Cette petite armée, elle a grossi. Il a combattu à la bataille de Valaise-Dunes tous les grands barons rebelles. À chaque fois, il s'en sortait admirablement. Quand le roi de France, Henri Ier, commençant à trouver que sa Normandie était un peu trop puissante, lève une armée pour essayer d'anéantir Guillaume, eh bien, c'est lui qui bat l'armée française à Mortemer, Embray. Il est vraiment, je crois que c'est un grand stratège. Il devine le mouvement des armées ennemies.
Et plus encore même peut-être qu'un stratège, c'est un grand politique, car il a su s'assurer avant même de se lancer le soutien de la cour de France par le régent, donc qui se trouve être son beau-père, ça tombe bien. Il a le soutien du pape au même moment, lui qui avait été excommunié quand même, il faut le dire.
Oui, parce que il y avait un lien de parenté assez proche. Je crois qu'ils étaient cousins issus de Germain, Mathilde et Guillaume. Donc le pape avait dit oh là, halte là, pas de mariage. Et on va réfléchir à la question. Mais Guillaume avait épousé la petite Mathilde violemment d'ailleurs parce qu'il s'était présenté.
Qui paraît-il était grande.
Était grande aussi. Mais violemment parce qu'il s'était présenté à elle en disant voilà, je vous trouve très belle, je vous épouse. Et puis elle avait répondu mais il n'en est pas question, je n'épouserai pas un bâtard. Ouais. Bon, alors évidemment ça jette un froid. Alors Guillaume pas content, s'est emparé d'elle, l'a saisie par les cheveux et lui a donné des coups de botte et l'a giflé, l'a quasiment boxé. Et alors évidemment aujourd'hui on appellerait SOS femme battue, mais pas du tout. Elle s'est retournée vers lui en disant oh, ce doit être un fier gaillard que cet homme qui vient frapper une femme sous le toit de son père.
Magnifique. Je précise à nos plus jeunes auditeurs, en plus on est mercredi aujourd'hui, et qui font, vous savez, un usage presque infini du terme bâtard, qu'à l'époque ça n'avait pas la connotation d'aujourd'hui.
Vous savez que c'est un mot viking à l'origine, oui. Ça vient du mot basti, qui veut dire né au fond d'une grange, tout simplement, né dans la paille au fond d'une grange, donc avec des parents méconnus ou inconnus.
C'est ça, alors lui avait le duc de Normandie pour père, et il avait pour mère une bonne bourgeoise quand même.
Oui, c'était quand même. Oui, son papa était possier ou pelletier, ou aussi il exerçait, dit-on peut-être, la profession de croque-mort également à Falaise. Enfin, il avait pignon sur rue.
Ce qui est inouï, c'est de voir qu'en peu de temps, les Normands s'étaient complètement établis dans cette province. J'allais dire arrachée, mais en tout cas empruntée au royaume de France. Hein. On se rappelle l'affaire de Roland
avec le roi Charles, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un exemple d'intégration prodigieux, puisqu'au bout de deux ou trois générations, les Normands qui venaient jamais avec leurs femmes au fond de leur leur dracard, de leur petit bateau, ils venaient seuls, donc ont épousé les jolies petites indigènes, les autochtones, et se sont véritablement mélangés, ont épousé également les coutumes, les traditions. On a d'eux que des souvenirs dans la toponymie, dans les noms de lieux, comme tous les noms en fleurs qui désignent les fjords, les noms en taux qui désignent les grands domaines, les noms bœuf qui désignent la cabane, n'est-ce pas ? Et puis dans le vocabulaire marin, les tribords, les bâbords, tous ces mots-là viennent naturellement des grands navigateurs qui étaient les Vikings.
Tout ça c'est du normand, d'une certaine manière. C'est cette Normandie que nous aimons tellement, Michel de Decker et moi-même. Dans un instant, nous allons voir que cette Normandie, on l'aimait tellement qu'on l'a donc exportée.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la bataille d'Hastings avec votre invité Michel de Decker, écrivain et historien, auteur des Grandes Heures de la Normandie aux éditions Pygmalion.
Avec aussi tous nos auditeurs dont certains me posent des questions. Alors je ne vais pas toutes les poser, il y en a vraiment beaucoup. Cette émission est en train de devenir très interactive, vous avez remarqué. César notamment me demande si l'actuelle famille royale d'Angleterre, les Windsor, descendent de Guillaume. Alors pas du tout, du tout. Ce sont des Hanovres, ce sont des Allemands eux, en l'occurrence. Bon, je n'entrerai pas dans ces considérations très complexes. Marie, toujours la même Marie qui habite à côté de Hastings, nous dit par ailleurs qu'il semblerait que, comme ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, ils aient imaginé la mort de Harold sur le champ de bataille, qu'en fait il serait mort beaucoup plus tard et très vieux. Alors que sait-on de ça? Il y a une chose quand même, j'en profite pour le souligner, c'est le goût des Anglais pour la controverse. Moi je serais le roi là-bas. Ils aiment bien étudier de près l'histoire, remettre en cause un certain nombre de mythes et de légendes, etc. Ce que les Français détestent entre nous, soit dit. Mais les Anglais, ils adorent ça. Donc en Angleterre, on prétend qu'Harold n'est pas mort sur le champ de la bataille d'Hastings.
Oui, mais en France aussi, vous savez, est-ce qu'il n'y a pas un frère jumeau de Louis XIV? Est-ce que tout ça,
oui,
tout ça,
voilà.
Jeanne d'Arc est vraiment morte à Rouen. On aime bien contester également.
Oui, un petit peu, mais plus
bon,
difficile.
Je crois, moi, la version qui est quand même celle de la jolie au col de Cygne, qu'on est obligé d'aller chercher pour savoir si elle reconnaît Harold ou non, tant il est défiguré par les traits qu'il a reçus dans le visage. Parce que vous savez que les archers avaient lancé leurs flèches de telle sorte qu'ils retombent quasiment à la verticale sur les troupes ennemies.
Gabriel nous demande d'où Guillaume est parti très précisément. Est-ce qu'on peut répondre à cette question?
Il est parti d'abord de Dives-sur-Mer. Voilà. Ensuite, le vent étant défavorable, il est arrivé à
Dives-sur-Mer, c'est juste à l'entrée de Cabourg, hein, juste à côté de Cabourg, oui. Entre Cabourg et Houlgate, précisément.
Oui, on imagine d'ailleurs, puisque la mise en route du plan, c'est janvier à Lillebonne, que de février jusqu'au mois d'août, ça a été un véritable chantier naval, les berges de la Dives.
Ouais.
Bon, donc de Dives-sur-Mer, ensuite rabattu jusqu'à Saint-Valery-sur-Somme et 117 km de traversée. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes en miles, 117 km de traversée plus loin, on arrive à Pevensey.
Alors, on arrive à Pevensey. À partir de là, on gagne la bataille. Il faut encore, avec quelques dizaines de barons seulement, prendre possession de cette Angleterre qui ne se laisse pas faire si facilement. Alors, je disais tout à l'heure que la violence d'un côté et l'habileté de l'autre de ces Normands qui jouissaient de la double culture et viking et latine leur avaient permis de s'imposer. Mais ça ne s'est pas fait ni très facilement, ni très vite. C'est tout un travail de longue haleine que va mener Guillaume. Oui, et sa femme d'ailleurs, parce que Mathilde va l'aider.
Bien entendu. Mais Mathilde avait sacrifié son mariage. Elle devait se marier le 25 décembre et il y a eu le couronnement. Bon, elle n'en a pas voulu à son mari. Puisque c'est d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est un rare exemple de couple qui a été d'une fidélité exemplaire. Guillaume a 10 enfants de la jolie Mathilde. Mathilde qui n'a jamais trompé son mari et Guillaume qui, dit-on, n'a jamais trompé la belle Mathilde. Donc on va avoir encore pendant 3 ou 4 ans, oui, des combats à droite et à gauche sur le territoire de la Grande Île. Et les barons normands, qui sont déjà bien aguerris, qui ont su organiser sur leur territoire de la métropole ici leur domaine et organiser toute la population, ce sont de véritables administrateurs. Et Guillaume sait comment les placer. Hein. Il place Audon de Bayeux dans le comté de Kent, un autre ici, et il leur a dit d'ailleurs, quand on a construit les bateaux, on les a construits avec du bois vert dans la dive. C'est-à-dire du bateau, les planches étaient montées à clin, n'étaient pas fixées, et on a dit c'est du bois vert, ça ne tiendra pas pour la traversée du retour, on ne reviendra pas, et voilà. Avait dit Guillaume. On n'est pas appelé à revenir, on reste là-bas. Et ils restent là-bas parce qu'ils perdent leur domaine normand, mais ils les dotent, ils les rentent, naturellement ils deviennent de grandes personnalités sur le sol britannique.
Avec une administration très bien structurée. Ah, hein,
absolument.
Le fameux Domesday
Book, c'est l'inventaire de la grande île.
Très utile aux historiens.
Ah, c'est phénoménal. Mais Guillaume est un, je crois, le premier. Il aurait pu créer l'ENA, hein, c'est un administrateur phénoménal.
Oui. Alors, il a quand même le soutien du pape, ça l'a aidé, évidemment. Il va avoir bientôt le soutien d'un certain nombre de grandes familles d'origine saxonne sur place qui trouvent leur intérêt. C'est-à-dire qu'on a négocié, j'imagine, on leur a dit c'est donnant-donnant.
Oui, Guillaume ne les a pas accablés définitivement, bannis définitivement. Il leur a donné à eux aussi tel domaine ou tel domaine. Et il a agi de telle sorte que tout le monde puisse s'entendre et créer un pays très moderne.
Et on va créer la célèbre culture anglo-normande.
Absolument.
Alors peut-être pas là dans les premières années, mais c'est ce qui peu à peu est né dans ce creuset de Normandie et d'Angleterre, en fait. Cette culture tellement forte et tellement spécifique.
Mais oui, puisque on sait que Guillaume envoyait même des bateaux en Normandie pour se charger de pierres venues. La tour de Londres est faite en pierre de Caen, tout simplement, par exemple. Donc, je crois que les Normands et les Anglais sont devenus vraiment indissociables, pensent de la même manière, vivent de la même manière. Et Guillaume fait des allers-retours constamment entre Londres et Caen ou Rouen, puisque on parle aujourd'hui de réunir la Normandie, mais lui avait ses deux capitales, capitale administrative qui était Rouen et la capitale religieuse qui était Caen.
Mais quand vous dites qu'il fait des allers-retours, c'est à quel rythme à peu près? On a une idée?
Il en fait bien 6 dans l'année. Donc,
ah oui,
oui, absolument.
Donc il passe son temps en mer, d'une certaine manière.
Il passe son temps en mer, en quelque sorte. Et quand il est en Normandie pour très longtemps, il laisse Mathilde s'occuper de l'Angleterre, ou réciproquement, Mathilde est en Normandie quand lui reste à Londres.
C'est assez différent de ce qu'on va voir peu de temps après dans la répartition des tâches entre Aliénor d'Aquitaine et son mari Henri, puisque eux restent respectivement en Aquitaine et sur le continent, et puis dans les îles britanniques, oui. pour ce qui est de Henri. Là, c'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire que
Aliénor, qui épouse d'ailleurs un arrière-petit-fils de Guillaume,
oui,
tout simplement, ça reste dans la famille. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette culture anglo-normande? D'abord, un certain nombre de mots, peut-être. Il y a des traces dans le vocabulaire anglais. Hein.
Oui, dans le vocabulaire. Alors, les Anglais ont naturellement confisqué un certain nombre de mots normands, mais réciproquement, on a également, bien avant que le franglais n'existât, utilisé des termes anglais dans notre littérature générale.
On peut dire que les termes de table, notamment, hein, le mouton, ça se dit sheep en anglais, mais ça devient mutton s'il s'agit d'un plat.
Absolument.
Même chose avec le cochon, hein, qui de pig devient porc, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un certain nombre d'habitudes et de traditions qui remontent directement à cette époque, y compris des devises également, y compris tout ce qui va structurer la vieille tradition anglaise.
On sait par exemple que quand Guillaume a acheté le terrain à Caen pour construire son abbaye, il a dû payer en esterlin, qui va devenir le sterling, tout simplement.
Voilà, exactement. Il a, ce Guillaume, il a compris que l'Angleterre était en quelque sorte un peu de la même eau, si je puis dire, que cette Normandie. Hein. Et on est en train de créer une sorte de pays qui aurait pu rester. Alors certes, il y avait le Channel entre les deux, hein, il y avait la Manche, mais culturellement et même dans les paysages, dans l'architecture,
aussi, oui.
etc., il y a de grandes proximités.
Oui, bon, mais évidemment, Guillaume n'était pas impérissable. Il finit par mourir âgé de 60 ans, d'ailleurs, et à ce moment-là...
Il meurt à Rouen, il faut
il
dire.
Meurt, alors, comment meurt-il? Eh bien,
oui.
Vous savez que le roi de France, Philippe Ier, de plus en plus contrarié par cette espèce d'essor que prend la province normande, parce que n'oublions pas que depuis Saint-Clair-sur-Epte, le duc de Normandie est le vassal du roi de France, envisage de récupérer cette province qui est la plus riche. Voilà. Alors il lève une armée, et Guillaume dit, mais c'est pas possible, je ne vais pas lui céder la Normandie, c'est moi qui vais devenir roi de France, et il envisage de monter à Paris pour prendre la couronne de Philippe Ier. Mais il a 60 ans, en 1400. 87. Et ce n'est plus le bel athlète que l'on avait connu à Hastings.
Il est 60 devenu... ans en l'an 1000 et quelques,
oui,
c'est beaucoup.
Avec
quand même,
une vie très épuisante, très éreintante. Et puis il mangeait comme quatre. Il était devenu ventripotent, obèse, avec un coup de bœuf. Et d'ailleurs, le roi Philippe Ier lui dit « Mais venez donc à Paris faire vos couches, tant il était ventripotent. » Alors il est vexé, il pique vif et il lève une armée. Il récupère déjà une grande partie du Vexin français et il fonce sur Paris. Arrivé à Mantes, Mantes-la-Jolie, il entre dans la collégiale, repris par ses vieux démons, elle est incendiée, évidemment. Et c'est à ce moment-là que, catastrophe, dans l'incendie, une clé de voûte tombe sur son cheval, il était à cheval. Le cheval fait un mouvement saugrenu, se cabre, et le gros Guillaume vient s'enfoncer le ventre sur le pommeau de sa selle, et il est éventré. On le descend de sa monture, on se met à 4 ou 5, parce qu'il est devenu énorme, je vous l'ai dit, et on le ramène à Rouen, où il va agoniser pendant de longues semaines au prieuré de Saint-Gervais, avant de rendre son âme à Dieu, pas à Odin, c'est fini le dieu Odin.
Donc il meurt en haute Normandie.
Oui, et il est enterré
en basse Normandie. C'est volontaire ça, c'est...
Oui, c'était prévu. Il avait prévu d'être inhumé à l'abbaye aux hommes et d'inhumer Mathilde. Mathilde avait été inhumée 5 ans plus tôt à l'abbaye aux dames également. Et alors, évidemment, on prévient le tailleur de pierre, de la belle pierre de Caen, la pierre de Voldiric, en lui disant le duc Guillaume est mort, il faut vite, vite. On arrive avec sa dépouille qu'on avait enveloppée dans une peau de bœuf et il faut un sarcophage. Le tailleur sculpte un sarcophage, mais il avait le souvenir du duc Guillaume élancé, svelte, si bien que Guillaume n'entre pas dans le sarcophage.
Oui, il était devenu beaucoup trop gros.
Mais oui, alors le tailleur de pierre se dit je vais être licencié. Il appelle tous ses amis, venez m'aider, on va le plier. Et on appuie sur la dépouille et le ventre explose. Ne me dites pas que c'est l'origine de tripes à la mode de Caen. Je ne veux pas que ce soit vrai. Mais il y a eu des odeurs méphitiques absolument abominables. On a dû faire brûler des herbes odoriférantes pendant des jours et des jours avant de procéder à la cérémonie officielle des obsèques de Guillaume.
Ah oui, ça n'est pas resté sur une belle image. Je préférais qu'on évoque l'architecture anglo-normande, hein, toutes ces abbayes absolument sublimes dont nous avons la plus belle part de ce côté-ci du Channel, il faut le dire. Il faut visiter cette sublime Normandie. Nous avons d'ailleurs à Caen même la plus ancienne salle civile du Moyen-Âge et qui qu'a connu Guillaume.
C'est ça qui était... Au château, tout à fait, oui.
Au château,
et
là-haut.
Et vous savez que tous les barons, la famille des barons est partie s'installer pour beaucoup aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a descendant de Richard de Revier de Vernon, le mont Vernon sur lequel repose Washington, le seigneur Disigny. Eh bien, en décembre de 1901, va naître un petit bonhomme à Philadelphie qui s'appelle pas monsieur Disigny, mais monsieur Disney, parce que le mot s'est contracté. Walt Disney est un descendant des colons de Guillaume le Conquérant.
Incroyable. Ça me donnerait presque envie de faire une émission sur Walt Disney. D'ailleurs, tiens, on va y songer très sérieusement. C'est Bertrand qui, via Twitter, me dit qu'il faut absolument faire une émission sur Henri Ier Beauclerc, le fils de Guillaume, dont la vie, nous dit-il, est un roman. Vous confirmez,
oui,
Michel Dedecker?
Benjamin, celui qui a récupéré, puisqu'il y avait Robert Courteuse, c'est lui qui a récupéré le pouvoir de duc de Normandie et de roi d'Angleterre avant de mourir d'une indigestion d'anguille.
Eh bien, prof, décidément, prenons date. Les grandes heures de la Normandie, truculente, pleine de ces anecdotes qu'il aime et dont fourmillent ses récits, c'est le grand ouvrage de Michel Dedecker aux éditions Pygmalion.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Emeline. Elle nous l'envoyait via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait savoir de quand date et d'où viennent les préjugés contre les gauchers.
Alors ça remonte très 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 loin. J'ai presque envie de dire que c'est un peu biologique, cette histoire. C'est assez étonnant. Dans l'Antiquité, notamment dans l'Antiquité grecque, il y avait déjà à Athènes, hein, une forte distinction entre la partie gauche du tribunal qui était plutôt considérée comme néfaste et puis la partie droite qui était plus positive. C'est pas tout à fait vrai ça chez les Romains. Daniel Porte nous a téléphoné pendant l'émission pour me préciser que le mot sinistère au départ était plutôt favorable et que les oiseaux qui venaient de gauche à Rome était considéré par les horuspices comme plutôt positif. Ça a évolué par la suite, semble-t-il, sous l'influence des Étrusques. Ce sont eux qui ont valorisé la partie droite de l'anatomie, d'une certaine manière. Alors, dans la tradition judéo-chrétienne, on a la même distinction, mais qui va s'accuser encore, hein, au moment du jugement dernier. Ici, les bénis de mon père héritaient de ce règne à droite, et puis à l'inverse, ceux qui sont à gauche allez loin de moi, maudit au feu éternel. Tout ça, évidemment, cette tradition va se développer encore au Moyen-Âge. Et certains manuscrits, d'ailleurs, au Moyen-Âge, sont signés Manu Sinistra Scriptit, c'est-à-dire le copiste est gaucher, preuve peut-être d'une certaine tolérance pour autant envers les gauchers à cette époque, à partir de la Renaissance. Et puis de plus en plus, à l'âge classique, bien entendu, ne parlons pas du 19e siècle, être gaucher devient une véritable tare. Chez les scientifiques et chez certains médecins très sérieux comme Cesare Lombroso, les gauchers sont des personnes inférieures ou dégénérées. Voilà ce qu'on écrivait encore au 19e et au 20e siècle. Tout ça va s'améliorer petit à petit. Hein. Il ne faut pas oublier que jusque dans les années, moi j'ai connu ça, donc on va dire aller jusqu'à la fin des années 70 au moins, on obligeait à l'école les gauchers à écrire de la main droite. Bien entendu, c'était les fameux gauchers contrariés. Ils représentent quand même 13% de la population, les fameux gauchers. Et ils ont quelques très beaux exemples à pousser en avant. Je pense à Léonard de Vinci, bien sûr, à la reine Victoria d'Angleterre ou à Charlie Chaplin.